Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Azilis Podesser de l'équipe Podcasting.
40 ans après la création des premières antennes scolaires mobiles, Podcasting tente de comprendre ce qui limite encore aujourd'hui la scolarisation en milieu dit « ordinaire » des enfants du voyage. Dans ce deuxième épisode, on retrace l'histoire de ces écoles itinérantes.
L'idée, c'était de dire, puisque ces gosses ne peuvent pas aller à l'école, eh bien c'est l'école qui va aller là où ils sont.
Daniel Elzière, frère des écoles chrétiennes et fondateur de l'antenne scolaire mobile de Perpignan.
C'est en 1969, lorsque M. Dominique de Beaumont, un Parisien, et le père André Barthélémy, qui connaissait les tziganes, surtout les tziganes d'Europe de l'Est, mais qui était très fréquentant avec les Roms de la région parisienne, ont eu l'idée de créer cette association, A7, aide à la scolarisation des enfants tziganes et autres jeunes en difficulté. Mais depuis toujours, cette association ne s'occupe en fait que des jeunes du voyage. Donc cette association avait deux buts. Un, de promouvoir la scolarisation des enfants itinérants, en accord avec les écoles publiques, les écoles catholiques et les familles désireuses de voir progresser leurs gosses, et deux, de défendre le droit à l'école, du fait que ces enfants voyagent souvent, se déplacent souvent, donc arriver à ce que leur déplacement permette aussi d'être instruits. La deuxième étape, on peut dire de 69 à 82, en région parisienne, surtout région nord, banlieue nord et est, une vingtaine de bénévoles, étudiants et adultes, encadrés par trois religieuses et trois religieux, ont commencé à fréquenter les terrains de stationnement des jeunes voyages pour faire un peu d'alphabétisation et un peu de médiation.
Dès 1970, l'A7 réfléchit à la création d'une école dite de rattrapage. Mais l'idée paraît difficile à mettre en place car les populations visées sont diverses et méfiantes envers les professeurs. L'association demande alors de l'aide aux frères des écoles chrétiennes.
Les membres de l'association A7 leur ont dit « Vous êtes spécialisés, vous, dans l'éducation. Faites quelque chose, inventez quelque chose pour ces gosses qui ne peuvent pas aller à l'école. » Donc alors ces frères se sont réunis pendant deux ans, et ils ont sorti un texte de 26 propositions, dont une aboutit à l'éducation nationale, qui était la création de classes itinérantes. Donc c'est à partir de là qu'ils ont commencé à bosser sérieusement, à chercher des textes, et se sont aperçus qu'il y avait une circulaire de 70, déjà 70, qui disait ceci. Dans les cas exceptionnels où deux ou plusieurs familles comptant au moins 15 enfants d'âge scolaire se déplaceraient habituellement ensemble, et si, grâce notamment aux associations intéressées, on peut disposer d'un local itinérant à usage scolaire, la création d'un ou plusieurs postes d'enseignants spécialisés peut être envisagée. Donc c'était la porte ouverte à cette idée. Donc à partir de là, c'est en 82 qu'il y a eu les deux premières classes mobiles en région parisienne. Et c'est l'Académie, je crois, de Bobigny qui est la première à monter ces deux postes. Et les deux premiers postes ont été tenus par deux frères des écoles chrétiennes.
L'expérimentation des écoles mobiles à Paris intrigue de jeunes professeurs en formation comme Marie Mousset. En 1985, elle découvre ses antennes au cours d'un stage.
La directrice de notre école de formation, à cette époque-là, nous avait laissé une semaine pour aller voir toutes les écoles un peu particulières sur Paris. J'ai commencé par les camions-écoles et là, j'ai été subjuguée. J'étais dans le camion-école de Camille Végé et j'ai été subjuguée par un jeune garçon qui avait 14 ans, qui s'appelait Boboy, je me rappelle encore, et qui Camille me l'avait confié pour que je le fasse travailler. On a commencé à 9h le matin. à 1h de l'après-midi, il ne voulait pas quitter le camion école parce qu'il ne savait pas lire. Il ne voulait pas quitter tant qu'il ne savait pas lire. Mais il était vraiment très déterminé. Moi, je sortais de formation, j'avais fait plein de stages dans des écoles plus classiques, ordinaires. Et j'étais vraiment étonnée par cette volonté féroce de vouloir absolument apprendre à lire.
L'année qui suit, elle commence sa carrière dans une antenne scolaire mobile.
Il y a eu une création de poste en juin, ce qui n'arrive jamais. Mais bref, ça a eu lieu et j'ai pu bénéficier de ce poste. Et je suis donc allée en banlieue parisienne, en Val d'Oise, pour enseigner avec un frère des écoles, un autre frère des écoles chrétiennes qui était créateur de cette antenne avec Camille Végé, tous les deux, Léon Côte. Et tous les deux, ils avaient lancé ça, ils avaient déjà débroussaillé un petit peu et on était trois jeunes à l'époque à les rejoindre. Quatre d'ailleurs, parce qu'il y avait un avec Camille sur un autre département de la région parisienne. Les souvenirs que j'ai, c'est un sentiment de liberté. Moi, j'avais un peu de mal avec l'enfermement dans l'école. J'ai été interne dans une école et je trouvais que c'était difficile d'être enfermée dans ce lieu école. Et là, tout d'un coup, il y avait une école en plein air. Voilà, et c'était super agréable. Et j'ai rencontré des gens qui étaient des enfants qui étaient tellement preneurs et demandeurs, tellement envie d'apprendre, qui se battaient presque pour être les premières à rentrer dans le camion école. Et ça, c'était incroyable. Voilà, et du coup, on a petit à petit mis en place des outils de scolarisation qui correspondaient à l'âge de chacun. C'était pas mal de travail quand même au début. Et puis, il n'y a pas eu que les outils scolaires, il a fallu aussi leur permettre de rester. On a touché un petit peu à du social aussi. C'était pas notre rôle, mais on ne pouvait pas travailler s'ils ne pouvaient pas rester en place.
À cette époque déjà, les camions vont sur des terrains non officiels et précaires. Ils vont à la rencontre des enfants qui n'ont pas accès à l'instruction.
Donc, dès le départ, la CET disait bien que la classe mobile était un pont pour préparer les enfants à aller à l'école.
Alors au début, on ne savait pas très bien où on allait. Il est vrai que l'inspecteur d'académie nous avait demandé de les amener vers l'école. C'était l'objectif numéro un. Mais nous, on voyait qu'il y avait un tel décalage entre les populations qu'on voyait et le fait de les amener à l'école, on n'arrivait pas à imaginer. Donc on ne savait pas très bien. Les 3-4 premières années, on n'était pas très sûrs de nous sur ce sujet-là. On essayait au moins de les réconcilier avec l'envie d'apprendre. Par contre, les amener à l'école, ça... Bon, avec du recul, je peux dire que ça a été un travail de très longue haleine sur plusieurs générations.
La lenteur de ce processus est aussi due à la confiance longue à instaurer entre les familles du voyage et les professeurs.
Toutes les familles d'ailleurs, les plus pauvres et celles qui vivaient normalement, avaient peur d'envoyer leurs enfants dans des milieux scolaires parce que les gadjets, c'était un peu... Les gadjets, c'est-à-dire les noms manouches, les noms de ciganes, c'était vraiment un milieu duquel on devait se méfier. Parce que tout au long de leur histoire, ils ont été rejetés par les gadjets. Du coup, ils avaient très peur d'aller dans un milieu où il n'y avait que des gadjets. Et ils se racontent des tas d'histoires. Ils se racontaient des tas d'histoires sur les gadjets. Donc, il y avait plein de peurs. En réalité, les peurs que notre société de sédentaires a développées à l'égard des tziganes, enfin, les peurs sont exactement les mêmes chez les manouches. Les manouches vont dire qu'on n'est pas propre, qu'on ne prend pas soin de nos vieux, qu'on n'est pas respectueux des enfants. Comment dire ? C'est symétrique, voilà. Ce sont des peurs symétriques. C'est-à-dire que les peurs des non-tziganes à l'égard des tziganes sont les mêmes que les peurs des tziganes à l'égard des non-tziganes.
Au fil du temps, une relation de confiance s'instaure et progressivement, des antennes scolaires mobiles voient le jour un peu partout en France.
La première classe mobile hors de Paris, c'était celle que j'ai eu moi à Perpignan en 88. Donc ça veut dire de 82 à 88, il ne s'est rien passé au niveau national. C'est sur Paris que ça a bouilli un peu, que des rapports ont été faits, que les inspecteurs ont vu que ça valait le coup. Et progressivement, c'est descendu un peu dans les régions. Donc la première classe mobile à l'extérieur de Paris, Perpignan, 88, puis Toulouse, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Lille, Angers. Voilà. En tout, je crois qu'en 2010, il y avait 30 ou 35 classes mobiles en France. Et le rapport de 2010 dit qu'il y avait à peu près 3 000 enfants qui étaient scolarisés dans les classes mobiles.
Nouveau territoire, ça veut dire nouveau lien à créer avec ses communautés. Après quelques années en région parisienne, Marie Mousset ouvre l'antenne bordelaise en 1990.
Je me rappelle très très bien du premier jour d'école. Les enfants ne venaient pas parce que les parents ne me connaissaient pas. C'était des gens heureux qui vivaient à l'aise, qui étaient très bien. Et ils étaient très effrayés. Donc je suis restée un peu toute seule dans mon camion pendant un petit moment. Il y a des parents qui sont venus voir par le carreau. Il y a deux ou trois mamans qui sont venues me saluer, me dire bonjour, qui me demandaient qui j'étais, ce que je faisais, mais je voyais bien que la confiance n'y était pas justement, donc m'envoyer des enfants c'était un peu compliqué. C'était le premier jour ça, et l'après-midi je suis allée sur un autre terrain, et là une chance incroyable, il y avait combien de caravanes, je sais pas, une quarantaine de caravanes, peut-être 50, je sais pas, et tout d'un coup je vois arriver deux élèves que j'avais eus en région parisienne au mois de juin. Donc là, ça a été gagné d'office. Tout d'un coup, ils ont dit « Ouais, venez, venez, c'est Marie du camion école, je la connais bien, vous pouvez venir. » Et tout le monde a... Voilà, il s'agissait de Rocky et de sa sœur, j'ai oublié son prénom, et ils sont sur Bordeaux toujours. Et ouais, c'était drôle. C'est eux qui m'ont introduit en fait sur les terrains, quoi. Et là, tout le monde est venu en masse. Alors, les parents sont quand même venus voir un petit peu autour ce qui se passait. Mais sur ce groupe-là, ça a été rapide. Et j'avais pas le téléphone et pas de GPS à l'époque. Donc, c'était vraiment compliqué de retrouver les gens. Je donnais mon téléphone personnel à tout bout de champ, à tout le monde. Et ils m'appelaient à n'importe quelle heure de la soirée. Et en tout cas, ils me donnaient des points de repère que je devais, du genre « Marie, viens, on est près de la station Esso là-bas, tu sais, la station Esso, tu connais, hein ?» Voilà. Donc sur Bordeaux et sa banlieue, la station Esso, voilà, il fallait que je retrouve. Donc j'essayais d'avoir des repères, c'était, ouais, au début j'ai pas mal circulé, j'ai cherché, c'était, voilà. Et puis les gens au début, hein, jusque, je me rappelle, j'ai commencé donc en septembre à la rentrée, et jusqu'en février, jamais on m'offrait un petit café ou un petit signe de bienvenue, quoi. Et c'est en février que ça a commencé. Voilà, je me rappelle très bien. Et les premières familles qui ont commencé à voir que ce que je faisais était étonnant. D'ailleurs, ils m'ont dit, non mais on n'en revient pas. En fait, on est un peu méfiant à ton égard et à l'égard des gadgets, parce qu'on se demande bien quelle est la motivation derrière. Est-ce que vous voulez récupérer nos enfants? Est-ce que vous voulez leur faire un petit lavage de cerveau? Est-ce que vous voulez leur demander d'arrêter d'être manouche? Quel est votre objectif au final? Parce que nous offrir un service d'apprentissage de la lecture, de la lecture et de l'écriture comme ça, gratuitement, on n'y croit pas trop. Voilà, c'était leur discours au départ. Moi, j'ai joué de ma naïveté, naïveté, c'est-à-dire que j'ai dit, ben, mais si, on vient juste seulement pour vous offrir ce service d'apprendre à lire et à écrire. Et au fil du temps, ils en étaient très, très étonnés. Hein. Ils me l'ont redit très souvent. Ils m'ont dit que vraiment, ils n'en revenaient pas qu'on leur offre ce service. Ce service à domicile. C'est ça qui était étonnant, parce qu'ils se font chasser en permanence et tout d'un coup, on autorisait un camion école à venir sur leur terrain non autorisé. Voilà, donc pour eux, c'était un espèce de grand écart incroyable et étonnant, quoi.
Une fois la confiance instaurée entre gens du voyage et professeurs des antennes, place à la créativité dans les classes.
C'était formidable parce qu'on avait tout à inventer. C'est un livre qu'ils ont écrit. Il me raconte quelque chose. Le lendemain, je revenais. J'avais réécrit l'histoire. Les meilleurs lecteurs commençaient un peu à lire certains mots. Voilà. Donc, c'est leur histoire à eux, qui a été traduite en 7 langues, et qui raconte quoi? Qui raconte comment ils vivent, comment ils se distraient, la chasse au hérisson, quand les stites arrivent sur le terrain, les métiers, la nuit, dans la caravane, la fête, le mariage, l'histoire du papou, le grand-père, et les Saintes-Maries de la mer. Et avec ce livre, des quantités d'enfants ont appris à lire. parce que c'est leur histoire.
Marie, de son côté, fait du théâtre dans sa classe. Et la pièce est jouée devant les élèves de son école de rattachement. Un premier pont avec l'école immobile qui se poursuit aujourd'hui avec le projet Ado Autonome porté par Marie-Alice et Guillaume, les professeurs de l'antenne bordelaise.
On a bien avancé dans tout ce qui est lire, écrire, compter. Et un jour, on s'est dit, on fait toujours la même chose. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau à faire. Et on est dit, tiens, mais pourquoi pas, puisque les jeunes, les ados surtout, les téléphones sont là, ils passent toute la nuit au téléphone, le matin ils se lèvent à pas d'heure, enfin le midi ils se lèvent à pas d'heure, ils s'ennuient, pas terrible. Mais par contre, quand on fait des sorties, manifestations, on va au théâtre, on va visiter un musée, donc là on arrive à mobiliser beaucoup, beaucoup de jeunes. On s'est dit, bon, ces jeunes-là, ados, qui sont pas très vaillants dans la vie de tous les jours, mais quand l'école est là, ils font quelque chose. Quand on fait des sorties, ils sont présents. Mais pourquoi ne pas continuer les apprentissages en venant, en les mobilisant une journée par semaine, en venant à notre établissement de rattachement. Et d'autant plus que notre établissement, c'est assez facile à venir puisque c'est accessible par le tramway. Le tramway s'arrête pile devant. Et donc les enfants ont plus l'habitude des tramways, des bus, quand il y a besoin d'aller au Quinconce, aux fêtes foraines. Donc là, il n'y a pas de souci, ils sont assez mobiles. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas se mobiliser ? On a essayé, au tout départ, avec un tout petit groupe, et ça a marché. Et petit à petit, c'était avec quinze enfants. Voilà, dans le projet initial, on avait dit qu'on viendrait avec 15 enfants. Et de suite, on nous a repris en disant non, 15, c'est beaucoup trop. Il faut que vous veniez avec moins d'élèves parce qu'il faut apprendre à gérer. Parce que même ici, dans l'établissement, les personnels enseignants ne connaissaient pas les gens du voyage. Ils avaient un petit peu peur, une certaine appréhension. Donc 15, ça fait un peu trop. Il faut venir avec beaucoup moins d'élèves, une dizaine. Puis petit à petit, on est venu, les profs se sont investis et il y a un lien qui a été établi. Nous, avec les enseignants d'ici, puisqu'on ne les connaissait pas trop, les jeunes avec les enseignants, avec les élèves. Et petit à petit, on est monté 10, 15, 20 élèves. L'an dernier, c'était ça. Et puis maintenant, là, de deux séances, on est à, on va dire, 37 élèves de moyenne. Hein, voilà, sur deux séances, 35 la semaine dernière, 39 aujourd'hui. Voilà, et donc c'est un projet qui marche, qui a du sens.
L'objectif d'emmener les enfants du voyage vers le chemin de l'école avance, mais il reste partiel, avec une demi-journée au collège par semaine uniquement. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous questionnerons le futur des antennes scolaires mobiles, de même que leur rôle dans la sédentarisation des populations du voyage.
Merci Azilise Podesser, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Etchari, Myrène Garay-Coetchea, Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.